Grivellerie. Une émission volée à la tire. Voilà, ben bonsoir à tous, on est hors les murs pour une fois, on est à Braine-l'Alleud et on est chez Victor Hublot, alias Guy Clairbois, qui nous reçoit ce soir. Alors, on connaît certains morceaux que tu as fait, mais est-ce qu'on peut d'abord savoir d'où vient le nom, d'où vient l'idée, d'où vient le concept du groupe ?
Ben, au départ, en fait, il y avait un groupe belge qui s'appelait Jules Verne, qui faisait musique un peu de chambre comme ça, mais ça mélangeait également les styles, il y avait des influences du jazz et l'idée en fait au départ était d'avoir un nom proche de celui de Jules Verne.
Évidemment, il y a une erreur que tout le monde a remarqué, on aimerait en connaître l'origine. Ce n'est pas Victor Hublot mais bien Victor Hublot.
C'est pas une erreur parce que c'est la première fois que ça a été écrit, c'est-à-dire sur le tout premier concert qu'on a fait, première affiche. Le gars qui a fait l'affiche a oublié le C et on a gardé ce nom là parce qu'en fait on trouvait que ça augmentait la confusion d'appeler ça Victor plutôt que Victor quoi.
On se demande quand on entend les premiers titres, hein, donc La Petite Gaïole, etc., c'est quel style de musique tu écoutais à l'époque. Je suppose qu'il y avait déjà Magma, peut-être les Résidents aussi dans les influences. Est-ce que c'était déjà présent au départ ?
Oui, tout à fait. À ce moment-là, j'avais déjà eu ma période Magma. J'avais une période, en fait, du Univers Zéro, Arzoy, tout ce genre-là, Enrico, qui avait balayé tout le reste. Et avant ça, c'était le rock, quoi. Commencer par les Who. Jamais vraiment fort écouté les Beatles ni les Stones d'ailleurs. On connaît quoi, hein, j'étais pas fan quoi. Mais des Who, ça, c'était autre chose. Et puis, et d'autres groupes comme Idem, la même chose. J'ai jamais vraiment été fan de Genesis, mais par contre, j'écoutais beaucoup Yes, ou Gentle Giant, des choses comme ça. Dérivé tout doucement vers Magma. Et alors, quand j'ai vu une fois en concert Univers Zéro, ça a vraiment balayé tout le reste. Pendant 3-4 ans, je n'écoutais que ce genre de musique-là, avant de revenir à des choses plus commerciales, quoi. Mais alors, là, j'étais ouvert à tout, donc Telex, des choses ainsi. Mais ça, c'est vraiment le début des années 80, enfin, fin des années 80. Donc, quand j'ai commencé la musique, en fait, je connaissais évidemment toute cette branche de la musique. Et je revenais à des choses plus ouvertes, quoi. Yellow et des choses ainsi. Et alors les Residents, en fait, là c'est essentiel parce que comme je suis pas du tout musicien, quand j'ai entendu les Residents, enfin, je sais pas si c'était un compliment, je me suis dit que j'étais capable de faire de la musique aussi. Mais j'adore, hein, les Residents, c'est extraordinaire, hein. C'est l'ambiance, c'est autre chose que enfin, c'est pas du tout de l'académie, quoi. Mais c'est du son, c'est du rythme et c'est une ambiance tout à fait particulière. J'avais un enregistreur, je jouais sur les vitesses. Ma guitare n'était jamais accordée. D'ailleurs, il y a un copain qui l'a accordée, elle n'a jamais plus été après. Et c'est vrai, en plus. Mais donc, je jouais là, toujours sur les vitesses, sur le son, et je cherchais comme ça, quoi. Et puis après, avec le temps, il y a une boîte à rythme et des choses ainsi. Mais au départ, il n'y avait même pas de boîte à rythme, en fait. C'était surtout basé sur le son et à l'oreille, hein, apparemment. Maintenant, l'oreille est un petit peu arrangée. enfin, elle l'était déjà à ce moment-là, donc je crois que j'ai jamais entendu les choses comme tout le monde. Et alors, je pense également quelque chose qui doit faire son effet, c'est que comme je travaille avec des machines tout le temps, et que j'ai ce rythme des machines, à mon avis, et cette sonorité quelque part en tête, quoi. Oui, en fait, je travaille dans la pierre, quoi. Je suis tailleur de pierre. Mais bon, il y a des machines, donc des grosses scies, par exemple. Si c'est mal huilé, ça grince un petit peu comme le chemin de fer, des choses ainsi. Mais pas aussi lourd, quoi, si tu veux. Enfin, c'est des sons plus stridents, quoi. Et puis le reste, c'est des bruits de taille, des bruits. Enfin, c'est... Oui, des bruits mécaniques, quoi.
On écoute pour la première fois un morceau de Victor Hublot, on a une impression de musique déconstruite, de joyeux foutoir, on va dire, et encore joyeux, c'est pas toujours le mot, mais quand on entend la manière dont tu fabriques les morceaux, c'est au contraire tout à fait pensé, chaque son est exactement à la place qui était prévue pour lui. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus comment tu fabriques tes morceaux ?
Mais c'est-à-dire que pour les morceaux traditionnels, donc de l'album de 86, là, je partais de la mélodie, la plupart du temps, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Mais la plupart du temps, c'était comme ça que je faisais. Je partais de la mélodie et je faisais la ligne basse, par exemple, avec cette mélodie, ou les sax, ou des choses comme ça. Mais bon, il n'y a pas de règles. Tout premier morceau, par exemple, c'était Vive l'amour, c'est le premier que j'avais créé. Et je n'avais pas prévu de texte du tout dessus. Et c'est en écoutant les disques traditionnels, là, d'une chanson traditionnelle, que m'est venu en tête de mettre Vive l'amour dessus. Et le contraste des deux m'a fait rire. Et donc, je me suis dit, bah, je vais continuer sur cet angle-là, quoi. Mais Piron, par exemple, je suis parti de la ligne de basse ou d'un son de synthé, je ne sais plus très bien, que j'avais entendu quelque part et que j'ai reproduit, puis que j'ai retransformé un peu. Et c'est ça qui a fait la ligne du morceau au début.
Eh bien, tu parles justement de reprises ici. Bon, ben, forcément, il y a tous les morceaux en wallon plus classiques dont on parlera tout à l'heure, mais il y a des Brassens également. En 1983, il y a eu un premier maxi Aller Simple dans lequel il y avait 4 titres, et on a remarqué que c'était les seuls morceaux originaux de Victor Hublot, les seuls morceaux qui ont été entièrement écrits et composés finalement. Tout le reste sont des reprises. Avec évidemment une originalité, mais pourquoi ne pas avoir écrit de nouveaux morceaux originaux de plus ?
Je pense que le plus original, justement, c'est la reprise des chansons traditionnelles. Hein. Et les Brassens, ici, apparemment, sont assez originaux aussi. Mais non, au début, je jouais avec... Enfin, pour le tout premier concert dont on parlait tantôt, qu'on a oublié, etc., je jouais avec deux autres potes, Dominique Barrigue et Didier Fouquet. C'était plus pour s'amuser qu'autre chose. Puis j'ai joué avec un musicien de Sony qui s'appelle Guy Delal, qui joue dans plusieurs groupes, qui est vraiment un musicien. Et le mélange des deux est assez intéressant, parce que lui, t'as ses mélodistes, et moi, j'ai plutôt les sons. Et donc, on a fait donc, ces 4 titres-là. Mais il y en a bien d'autres. D'ailleurs, je viens d'aller sauver les bandes, et je compte faire un CD avec ça. en complétant, parce que bon, pour le moment ce n'est que musical, mais donc je compte compléter par des textes, des petits extraits, mais ce serait la seule rajoute. Le reste, on utiliserait exactement ce qu'on a fait à l'époque, donc pour avoir ce son du début des années 80. Et bon, c'était quelque part, c'était du Yellow avant l'heure, comme il y en a certains qui m'ont dit, c'est un mélange de Telex, de Yellow, de Kraftwerk. Et apparemment, ce disque est considéré maintenant, d'après quelques chroniques, là, comme un disque d'humour légendaire, etc. Donc, c'est que j'en suis assez surpris d'ailleurs, hein, parce que bon, je n'ai quand même pas vendu non plus beaucoup. Donc, je suis assez surpris qu'il soit considéré comme ça.
Oui, on dit humour légendaire, mais quand on entend les morceaux, ça ne prête pas franchement à la rigolade. Oui, on sourit parce qu'on reconnaît la petite gaïeule, mais bon, une fois qu'on est dans une ambiance à l'écoute de ce disque, c'est tout à fait autre chose qui en sort.
Donc il y a plusieurs choses. Les gens, évidemment, qui ne connaissaient pas les morceaux, bon, ça les fait marrer parce qu'ils découvrent. Il y a certains qui me demandent, qui croient que c'est moi qui ai écrit ça. Mais bon, il y a plusieurs niveaux, je pense. Et alors aussi, évidemment, la musique, avec les multiples influences, comme tu en as parlé tantôt, où on peut rajouter encore d'autres choses, parce qu'il y a un moment, j'ai écouté du classique, j'ai écouté beaucoup de chansons françaises aussi. Donc c'est encore une autre ambiance. Mais c'était toujours par période. C'est-à-dire que je n'ai jamais été... je ne suis pas fan. Bon, il y a des groupes que j'aime beaucoup, comme les Residents, Magma et des choses comme ça. Et fan, je ne suis pas. Si Magma sort un mauvais album, je ne vais pas dire Magma, c'est génial. Quoi. Il faut rester les pieds sur terre. Je suis assez partisan pour dire que presque tout est dit. Tout n'est pas fait. Mais tout, je pense que tout est dit. Dans la chanson, de toute façon, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Hein? Je pense également qu'en reprenant des chansons traditionnelles, je vais dire, tu prends notre texte, tu mets sur ma musique. Il y a certains qui m'ont dit, en entendant par exemple Marinette, Dan Ackman, je me disais, bon, tu n'aurais pas dit que c'était Brassens, c'est la personne qui l'aurait remarqué. Le fait d'utiliser des choses connues me démarque également. C'est-à-dire que si je fais des textes donc de gens qui écrivent pour Victor Hugo, je vais rentrer dans un moule quand même malgré tout. Ici, ce contraste-là, justement, ça donne un côté humoristique parce que donc, je déplace le texte et ça me démarque justement par rapport à certains qui pourraient faire à la minute la même chose. Il y a aussi des groupes africains, par exemple, qui reprennent du Brassens, mais fondamentalement, c'est la même chose. Donc, l'arrangement est dans un style africain, mais la mélodie est la même. Fondamentalement, c'est la même chose. C'est comme si tu avais des percussions sur le truc de Brassens. Un groupe punk également, qui a fait tout un album sur des morceaux de Brassens. Mais c'est la même chose. C'est la même musique. Enfin, c'est pas un détournement, quelque part. Oui, c'est un détournement dans que ils reprennent les choses en rock. Mais c'est fondamentalement, c'est pas un détournement. Ici, c'est plus personnel. Je me permets de prendre un texte de Brassens et que je mets sur une musique nouvelle. Quelquefois, bon, c'est un arrangement, hein, je garde la mélodie, etc. Et c'est un arrangement, mais même mes arrangements sont quand même méchamment différents. Et donc, je me permets de mélanger deux choses.
Avec mon petit beau, je vais être dans le coup. ta marine. La belle lettre, ça fait d'acheter une toux. Avec mon petit vélo, je vais l'être un con. Ma mère, avec mon petit vélo, je vais l'être un con. Quand les gros touchons au rendez-vous de marinette, la belle disait je t'adore, un sexe qui l'embrassait. Avec mon bouquet de flow, je vais l'être un con. Ma mère, avec mon bouquet de flow, je vais l'être un con.
D'ailleurs, fait une autre tentative de mélange et de détournement en 1993 avec la dernière tentation du disque, où là il était question de tout à fait autre chose. Là, c'était un projet qui utilisait des morceaux déjà existants et c'était plutôt un travail de remix à ce moment-là.
Oui, ça, c'était vraiment un travail de dingue. Ça m'a pris 3 ans. C'est-à-dire que j'ai le premier sample, si on veut. Je faisais des grips sur des disques, donc où je collais des étiquettes pour avoir des séquences. Et donc j'enregistrais des séquences, j'avais acheté un 8-piste pour pouvoir mélanger un certain nombre de séquences. Et c'était vraiment un travail de fou. Quand je vois maintenant sur le PC la vitesse pour faire une séquence, et l'étirer, la raccourcir, faire tout ce que l'on veut avec. Et là quelquefois, ça, rien que pour coller l'étiquette et qu'on n'entende pas un gros plotch en plein milieu, donc il faut toujours que je m'arrange pour que ça soit une grosse caisse ou quelque chose comme ça, ou alors la coller, que l'aiguille glisse, donc il n'y a pas de ce coup-là. Ça pourrait me prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, quoi, pour arriver à la mettre, quoi.
Oui, c'était les frères de Wall, les Too Many DJs avant la lettre, quoi, finalement.
Ouais, moi c'est en 93, mais je crois que c'était pas vraiment longtemps après, hein. Ça devait être tout proche, quoi. Ouais.
Ils ont dû commencer à ce moment-là. Là. Justement, on dit cet album date de 1993, on a cité le premier maxi qui date, lui, de 1983, mais des albums sous le nom Victor Hublot, finalement, il faut attendre très récemment, en 2007, la création du site, et puis finalement, le single 200 millions qui est sorti en 2009, mais il y a plus de 20 ans, sans qu'il n'y ait vraiment eu de nouvelle chanson. Alors pourquoi un aussi long temps d'attente?
C'est-à-dire qu'on m'avait catalogué comme rocker wallon, comme ça. Et donc, quand j'ai dit que je reprenais Brassens, je me suis fait jeter partout. Autant la petite gaillole m'avait ouvert plein de portes. Donc, j'avais eu des reportages à la TV. On a fait un clip qui n'était pas sous Enfants du Rock, des choses ainsi. Beaucoup d'interviews radio. Et le Brassens, alors là, fini, quoi. J'ai été invité par Adrien Jovenot, je me rappelle, qui n'avait pas écouté, qui ne savait pas du tout ce que j'avais fait. Puis qu'elle a vu Brassens, il a tiré drôle de tête quand même. Enfin bon, après on a commencé l'interview. Et alors, quand elle a passé Marinette, bizarrement, la mauvaise réputation, il n'y a personne qui a réclamé. Donc à mon avis, il n'y avait personne qui avait reconnu. Et quand elle a passé Marinette, il y a une ou deux personnes qui ont téléphoné. Et, il a rigolé, mais il a retiré le disque quand même. Quoi. On n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, comme j'ai quand même mon caractère aussi, je me suis dit, bon, c'est ainsi, Victor Hublot Time, c'est terminé. Parce que moi, je voulais pas être catalogué comme rocker wallon, ça n'a aucun sens, quoi. D'autant plus déjà que sur l'album, comme je te l'ai dit tantôt, il y a des chansons traditionnelles françaises également, donc ça n'avait rien à voir. C'est pas parce qu'il y a la petite gaïole que forcément. Et donc, le projet de Brassens, en plus, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, ça, bon, j'ai décidé d'arrêter, quoi. Et alors, à ce moment-là, j'ai arrêté complètement. Et puis, j'ai réécouté un disque qui a une griffe. Puis je me dis, mais cette griffe est extraordinaire. Et j'avais déjà travaillé au début des années 80 avec des rythmes que je faisais avec des griffes. Quand je parlais tantôt des chipotages, avant les boîtes à rythme, entre autres, bon, les changements de vitesse, il y avait aussi des disques griffés déjà, que je me servais que juste comme rythme. Et là, j'ai eu l'idée de mélanger deux disques, donc deux griffés, pour voir ce que ça pouvait donner, quoi. Quand j'ai entendu le résultat, c'était extraordinaire, quoi. Si mes souvenirs sont bons, c'était Zappa. Enfin bon, Zappa et les tueurs de laine de miel que j'avais mélangé. Et il y avait un répondant, c'était fabuleux. Donc j'ai fait la dernière tentation du disque, mais on ne pouvait pas mettre vraiment à ce moment-là dans Victor Hublot. J'aurais mon coup à refaire, j'aurais titré ça Victor Hublot aussi. Parce que c'est quand même dans le même esprit de détournement, même si c'est un travail tout à fait différent. C'est de nouveau prendre des choses existantes et les replacer dans un autre contexte. Mais voilà. Reprise maintenant, en fait, en 2009. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, en fait, j'avais mis fin, donc la musique, ça faisait pas vraiment partie d'une autre époque. Et puis j'ai un copain, Richard Belgium, là, qui est venu me voir, et pour lui, hein, pour en fait, on se repart entre pour toi. Et qui m'a parlé de MySpace. Et quand j'ai vu MySpace, je me suis dit, il faut absolument que je sois là-dessus, que je fasse mon site, quoi. Et là, donc pour mettre les morceaux, j'ai remixé les morceaux sur le PC. donc pour qu'il y ait un peu plus de ventre, etc. Bon, quitte à en faire 3 ou 4, j'ai fait tout l'album. Puis je me suis dit, bah, après tout, j'ai sauvé les Brassens. En fait, les Brassens, je n'avais plus qu'une simple cassette. Hein, donc il était temps de les sauver quand même. Hein, et j'ai donc tout mis sur CD et j'ai envoyé ça aux gens qui avaient participé dans le temps. Quoi. Et là, ils m'ont répondu, bon, il y avait plusieurs années en fait, qu'ils n'avaient plus entendu, vu que la plupart n'ont plus platine depuis 10 ans. Et ils étaient étonnés du son électro que ça avait, etc. Donc puis, bah, je l'ai envoyé à Verlan, je l'ai envoyé à l'un ou l'autre. Et Verlan trouvait que ça ne vieillissait pas du tout, qu'il fallait que je me relance. Bernard Gillin, même chose, quoi, qu'on parlait tantôt, l'organisateur du Temps des Cerises, ben, même chose, il me disait que ça l'avait fait autant rire qu'il y a 20 ans. Bon, et alors, l'envoyé à Pompon, je suis passé à son émission, alors qu'avant, j'étais jamais passé chez lui. Je savais qu'il aimait bien, mais j'étais jamais passé.
Ah, il a diffusé à l'époque de La Petite Gaïole, il l'a diffusé en masse. Hein, ouais.
Et donc, mais ça c'était une étape, mais je comptais pas refaire de la musique. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'étais voir Studio Pagol, un concert ici à Waterloo, devant 10 personnes, concert gratuit, 10 personnes. Bon, Studio Pagol, ils ont quand même fait les premières parties de Natacha Atlas, ils ont joué quand même avec des gens dans des grands festivals, etc. Puis tu les retrouves devant 10 personnes. Et Marc, Marc Vanet, qui est un musicien de studio Pagol, et on avait vraiment gros la patate, quoi. Et puis en y repensant, j'avais dit, pourquoi tu ne reprends pas La Petite Gaïole? Parce que quelque part, c'est le même état d'esprit de musique électro. Et alors, lui me disait qu'il y avait pensé. Et après lui avoir dit ça, pendant 2 jours, ça a gambergé, puis j'ai commencé à avoir plein d'idées. Je dis, bon, on va le faire ensemble. Et alors quand je lui ai envoyé la liste d'idées, il y avait une page, il y avait le fameux coup de fusil à la fin qui tue le coq, il y avait une BHV Westbrook and Franz et des choses comme ça. Donc il y avait plein de choses, la guitare Alice Cooper qui se mélange avec la poule, enfin bon. Et parce qu'Alice Cooper à l'époque, il tuait des poules sur scène, ce que Manson fait après. En fait, Alice Cooper le faisait déjà à ce moment-là.
On se demandait pourquoi vouloir toujours s'entourer de musiciens extérieurs, de voix extérieures surtout.
Ben, j'aime pas du tout ma voix. Donc, j'ai jamais voulu chanter, en fait. Donc, je fais toute la musique, mais les chants, ça, je laisse ça à d'autres. Et, mais bon, apparemment, il y a plusieurs qui disent, mais non, ta voix est chouette, exactement. Moi, je n'aime pas du tout. À part ici, maintenant, justement, avec les PC, j'arrive à la déformer, à la trouver assez marrante, quoi. Mais, il y a Thierry Mondelas qui m'a dit là, il y a aussi une quinzaine de jours, je lui envoie un morceau que normalement je voulais qu'il chante. Et il me dit, non, je ne chante pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus là-dessus? Alors c'était Les Sabots d'Hélène, et je la chante un peu comme un pervers qui prend. Et en fait, c'est vrai qu'en les réécoutant, c'est assez marrant, quoi. Je les ai gardés, c'est un truc assez marrant, quoi. Enfin, bon. Et c'est vrai que là, je reconnais que c'est pas mal, quoi.
Alors justement, une autre question qu'on se pose avec tous ces invités qui viennent chanter, comment ça se passe éventuellement sur scène? Alors, les morceaux sont faits en studio avec des disques griffés dans le temps maintenant, avec surtout du bidouillage informatique. Les voix sont faites par des invités. Donc, que donnerait Victor Hublot sur scène? Est-ce qu'il y a éventuellement un jour la possibilité de te voir? Est-ce qu'on peut imaginer ça, ou bien est-ce que ça reste tout à fait en dehors du projet?
On en a déjà parlé plusieurs. Enfin, les scènes, c'est quand même la galère très très souvent. Donc, moi, ça ne me tente pas du tout. Ça ne m'a jamais intéressé. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans mon labo, là en bas, et trouver des combinaisons qui fonctionnent, quoi. Là, je peux être parti jusqu'à 4-5 heures du matin sans aucun problème. La scène ne m'a jamais vraiment intéressé. Maintenant, j'ai plusieurs, bon, parce que j'ai déjà réfléchi, mais je ne verrais pas ça du tout comme ça. Je verrais un groupe très très rock, à la limite très, vraiment très basique, quelque chose qui déménage, quoi. Jouer avec des enregistrements comme beaucoup de groupes font maintenant, vraiment pas l'intérêt. Enfin, leur seul intérêt, c'est la promo et d'arriver à faire qu'on parle d'eux comme ça. pour moi, c'est pas assez intéressant. Je veux dire, c'est vrai que la promo, en principe, c'est intéressant, etc. Mais je m'en fous un peu, quoi. Si c'est pour faire de la scène, il faut que ça apporte du plaisir, que ça m'apporte quelque chose aussi dans le plaisir. Et si c'est pour passer des bandes et chanter simplement dessus, c'est pas intéressant. Faire du rock basique, ça pourrait l'être, mais bon, il y en a tellement qui le font. Puis alors, une autre solution, c'est de faire un truc plus théâtral. Donc à ce moment-là, mais bon, là aussi, à la limite, là, ça dépendrait même pas de moi. C'est si quelqu'un qui veut le faire, qu'il le fasse, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, quoi.
On remarque d'ailleurs que les pochettes des albums, quand on te voit dessus, c'est toujours un contre-jour ou modifié. En tout cas, les visages sont toujours masqués.
Ah oui, c'est surtout les pochettes des albums, c'est pas moi qui suis dessus avec. Donc, il n'y a pas de danger. On sait jamais.
Non, voilà, alors pourquoi justement se cacher?
En grosse partie, c'est Chantal partout. Hein, Chantal Talbot, quoi. Mais même dans mon clip, dans le clip, on m'aperçoit, je sais pas, 5 secondes peut-être, quoi, en train de jouer avec un par terre. Là. Moi, sinon, on ne me voit quasiment pas. Quoi.
Oui, voilà, donc on en revient à est-ce qu'il y a finalement une définition de Vittor Hublot? C'est un concept évolutif ou c'est en fonction de tes humeurs, ou bien depuis toujours il y a véritablement une définition très claire et très totalement terminée là derrière?
Non, pas du tout, il n'y a rien de clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ c'est des chansons que je faisais avec un copain là. Le disque en fait que je vais faire avec lui, parce qu'il y a vraiment un projet de CD avec ces enregistrements là. Je trouve qu'il y a la matière pour le faire. Donc c'est un retour en arrière. On va faire un concept, certainement, on va prendre certainement des extraits de films pour combler les longueurs, vu que tout est instrumental. Ouais, ça reste le même. Et je suis occupé sur les Brassens, parce que cette histoire de Brassens me reste à travers la gorge depuis 88. et je le gobe pas, donc. Et ça s'annonce bien, en fait, les Brassens. Ça s'annonce vraiment très, très bien.
Alors, est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Il y a des invités, on connaît déjà quelques noms. Est-ce que tu peux nous en dire dévoiler quelques noms?
Oui, il y a Jeff Baudard qui avait chanté en 88. Il y avait Jean-Louis Bill qui avait chanté également en 88, donc qui était le présentateur de Cargo de Nuit. Puis, il y avait donc deux copains, Renaud Janson et Thierry Mondlers. Dans les nouveaux, il y a Jacques Duval qui est venu chanter. Il y aura Jean-Luc donc de Stella, Marie-France, et alors possible que Lio vienne chanter. En principe, elle est d'accord, mais ça suit son cours. Quoi.
Sans ces cheveux qui volent, j'aurai dorénavant des difficultés folles à voir d'où vient le vent. Comment faire demain si je perds l'équipe?
Donc on retrouve quelques noms de l'écurie Frixville.
Ben oui, tout à fait, oui. Mais, bon, j'avais demandé, mais je ne les connais pas en fait. Hein. Je ne connaissais aucun de cette écurie-là. Si ce n'est que, bon, évidemment, Duval, que je ne connaissais pas personnellement. Et le morceau, j'avais un morceau et j'entendais très bien sa voix dessus. Et donc je lui ai écrit et une demi-heure après, même pas une demi-heure, il me répondait directement, que, sans avoir entendu le morceau en plus, qu'il était partant.
Alors une petite question, on a parlé de la manière dont tu fabriquais tes morceaux, des influences, on parle de musique, mais est-ce qu'il y a d'autres milieux qui te servent d'influence aussi, d'autres arts, éventuellement, peut-être plus picturaux, puisque des motifs répétitifs, on peut en trouver ailleurs finalement. Est-ce qu'il y a des arts picturaux qui te servent d'influence aussi?
Peut-être au début, oui. J'étais assez souvent dans des expositions, etc. Mon frère est peintre, donc je suivais un petit peu ça. Puis bon, Chantal Talbot, céramiste, c'est des gens qui sont dans l'art et qui exposaient beaucoup. Et donc, dans les années 80, certainement que oui, j'ai dit, mais inconsciemment, quoi, je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'a toujours frappé.
Donc on a parlé du passé, on a parlé du futur, mais le présent actuellement, même s'il a déjà été enregistré il y a un petit temps, c'est l'album 200 millions. Alors que peut-on dire sur cet album qui est toujours disponible et qui marque finalement le retour de Victor Hublot dans les radios, dans les oreilles des auditeurs et des fans?
Ben, c'est un album en fait où il y a donc premièrement 200 millions qui est un des tout récents, donc on va entendre un peu ce qui va suivre avec les Brassens. C'est dans le même état d'esprit. L'album reboosté de 1986 qui est considéré par certains comme un album historique, légendaire et tout ce que l'on veut. On cite des trucs pas vraiment invraisemblables, enfin soit. Ça fait toujours plaisir. Et alors il y a Les Simples qui est remasterisé. Je crois qu'il sonne... Parce qu'il sonne mieux que ce qu'il n'a jamais été enregistré aussi bien, en fait.
Depuis quel temps la nuit, un rendez-vous promis, un rendez-vous raté, visite à l'improviste, et tu étais parti, un retour long et vite, sous la pluie qui pleurait, la triste nuit mouillée, paresse et ennui, le vide à l'intérieur, ça le
De cet album qui est donc sorti en 2009, mais déjà en 2007 on retrouvait un morceau de Victor Hublot sur une compilation qui est sortie aux États-Unis et en Australie, la compilation Beep. Est-ce qu'il y a eu des retours avec cette sortie?
Donc le seul retour qu'il puisse y avoir, c'est des ventes, donc c'est les gars de la compilation qui ont ça. Point de vue des droits des radios, des choses comme ça, jusqu'à maintenant j'ai pas encore reçu les décomptes de la SABOM, donc je n'en sais rien. Une chose qui est positive, c'est qu'en fait, là, il y a une maison de disques aux États-Unis qui veut sortir trois morceaux de cette époque-là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais été sauvé ces bandes en prévision de cette sortie-là. Et qu'en réécoutant tout, je me suis dit, bah, tout compte fait, ça sonne quand même pas mal. Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu le temps que j'avais par rapport à une sélection. Je me retrouve avec 45 minutes. Bon, il faut tailler dedans un petit coup, mais... Et non, en gros, ça, il y a certainement moyen d'avoir 35 à 40 minutes de musique sans s'emmerder, quoi.
On risque de retrouver un jour, donc dans des clubs select new-yorkais par exemple, des morceaux en wallon.
C'est possible. Moi, j'ai un quelqu'un de Belge qui m'a écrit qu'il avait trouvé mon disque à New York. C'est bien. C'est bien, quoi. Étant en vente à New York, donc c'est assez marrant. Il suffit d'être dans un cercle pour que les choses se passent quand même.
Ça fonctionne toujours de façon plus carrée une fois qu'on est dans un cercle. Hein. Tout de suite, ça marche mieux.
Et quand le CD 200 millions est sorti, donc je l'ai sorti d'abord en 45 avant de le sortir sur le CD album avec les reprises de 86. Je m'attendais quand même à avoir. Les avis étaient assez partagés. Certains disaient oui, ça va passer en radio, etc. D'autres me disaient aucune chance que ça passe. Le problème, c'est que ceux qui me disaient que ça avait aucune chance que ça passe, c'était quand même les plus professionnels, que ce soit Jean-Luc de Stella, Christian Martin, ou Verlan, même chose. Verlan, il m'avait dit pourquoi tu ne fais pas un truc qui passe à la radio pour une fois. Et je dis enfin, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Mais si, apparemment, il y en avait. Et en plus, il y avait ce côté, donc le petit côté linguistique en plus, dans le morceau, qui a peut-être bloqué les choses, j'en sais rien. Mais enfin, je sais qu'il était très bien reçu à l'RTB, des gens ont dit oui, c'est vraiment très très bien, c'est enfin, génial, je me suis bien marré, c'est génial, etc. Mais improgrammable.
Donc il y aura probablement donc, cet album consacré à des reprises de Brassens avec des invités. Finalement, ça fait 20 ans que tu y penses à ce projet. Et ensuite, y a-t-il déjà un autre projet?
Mais donc les reprises que j'ai dit des années 80, c'est quand même un projet qu'il faut. Bon, il ne suffit pas de reprendre les bandes et il faut quand même y réfléchir, de ne pas avoir des longueurs, etc. Et alors après, après Brassens, qu'y a-t-il? Et on verra, hein. Il y en a d'autres.
Eh bien, donc on va attendre. Hein. J'espère qu'on n'attendra pas 20 ans à nouveau pour avoir des nouvelles de Victor Hublot après ces deux albums-là. On va tout doucement conclure, évidemment. Ça devient une tradition, finalement, dans notre émission Grivellerie, c'est de décrire ce qui a été bu pendant l'interview. Alors, est-ce qu'on peut savoir?
Ben, on a bu Desperados, donc une bière à la tequila, c'est ça? Qui est très bonne, ça passe tout seul. Voilà.
Eh bien, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.
On a fumé de la Jadisette. Enfin, j'ai fumé, mais vous aussi. Donc... mais comme je suis chez moi, je peux fumer.
Piron, une venue d'Asie. C'est le bar de nouvelle chaussette. Une chaussette finie et verte. Il descend les corons pour faire danser le piron.
Fait danser le piron.